On joint avec plaisir Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
D'abord, un sentiment d'urgence palpable pour les médias de langue minoritaire.
Oui, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'actions au cours des deux dernières semaines concernant les médias de langue officielle en situation minoritaire. Ça inclut les journaux et les radios francophones du Canada et anglophones au Québec. Ces médias-là sont disproportionnellement affectés par toutes les difficultés qui touchent les médias, que ce soit le financement ou des problèmes de visibilité. Un consortium qui représente les quatre associations de ces médias-là a produit un livre blanc pour décrire la situation, mais aussi pour trouver des solutions. Puis on a aussi organisé un forum le 11 et 12 septembre pour revenir sur le livre blanc et explorer des pistes de solutions. Ils se sont posés des questions sur la définition de leur rôle et comment on peut adapter dans un monde médiatique en changement avec le peu de ressources qu'ils ont. Du côté des solutions, il y a quatre piliers importants qu'on dit dans le livre blanc. Premièrement, il y a les médias eux-mêmes qui doivent se moderniser, poursuivre les tendances aussi. Mais ils vont avoir besoin d'aide pour trouver le moyen d'y arriver parce qu'ils ne peuvent pas y aller sans eux. Parce que dans leur marché restreint, c'est impossible de faire assez d'argent juste en ligne pour soutenir leurs activités. Donc, on va avoir besoin de l'aide du gouvernement, mais aussi un engagement des communautés qui les servent, soit en utilisant ces médias-là ou en les aidant financièrement. Puis finalement, il y a les quatre associations et le consortium qui peuvent aussi être mis à profit dans la production de solutions. Ça sera donc à suivre, mais si ça vous intéresse, donc on a deux textes sur Franco-Presse. On a aussi une lettre à l'éditeur qui est envoyée par l'Alliance des radios communautaires du Canada. Et le média On a le choix de Cornwall, dont je vous parle de temps en temps, aussi produit un texte et une vidéo.
Et on poursuit maintenant avec une nouvelle tirée du courrier de la Nouvelle-Écosse.
Oui, on parle de numériser les accents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'application français dans nos régions. C'est un projet qui est né en France et qui sert à répertorier différents accents et expressions de la francophonie mondiale. Ça a commencé en France, mais je les suis sur Facebook, puis ils montrent toujours des cartes de dans quelle région tel mot et quel mot est utilisé et qui signifie la même chose. Ça a fait un peu de vague de ce côté-ci de l'Atlantique il y a quelques années quand ils ont commencé à répertorier les expressions au Québec, entre autres. Là, ce qui se passe, c'est que on regarde du côté de l'Atlantique, de la région Atlantique, il y a le Musée acadien de Pomnico en Nouvelle-Écosse qui organise une séance pour aider les personnes plus âgées de cette région-là à utiliser l'application pour enregistrer leur façon de prononcer certains mots, enregistrer leur accent. Et permettent aux chercheurs de cette application-là d'avoir ces données-là. Pourquoi on regarde du côté de cette région-là, c'est que c'est un accent qui vient d'une région très précise de la France, là, du nord, sur le bord de la Manche. Puis apparemment, il y a eu très peu d'influence extérieure, donc il ressemble beaucoup à la façon dont on parlait au 17e siècle. Donc, le musée a organisé cette séance-là pour donner un coup de main aux personnes âgées, là, pour qui ça peut être plus difficile d'utiliser une tablette ou une application pour enregistrer leurs accents. Puis, on espère pouvoir répéter l'expérience dans d'autres régions de la Nouvelle-Écosse où il y a des accents distincts, puis où c'est plus difficile d'obtenir la participation de tout le monde.
Bien sûr. Dans l'Express, il est question de télétravail. Le centre-ville de Toronto ne retrouve toujours pas son dynamisme d'avant la pandémie.
C'est l'Express qui nous présente les données d'Environics Analytics, à propos de l'achalandage dans le centre-ville de Toronto. Il y aurait 33 % moins de personnes qui travaillent au centre-ville de Toronto si on compare entre le premier trimestre de 2020, donc juste avant la pandémie, et ce printemps. En chiffres, ça veut dire qu'en 2020, il y avait 4,45 millions de personnes qui travaillaient autour du centre-ville de Toronto. En ce moment, ça serait seulement 2,96 millions. Il y a quand même eu une remontée depuis la fin des restrictions pour nous travailler, mais on observe en ce moment une stabilisation. Là, le dernier chiffre qu'ils avaient dans leur tableau en fait une petite diminution de 1 %. Les analystes de la firme croient que le nombre de personnes qui fréquentent le centre-ville ne va pas augmenter beaucoup plus que ça. C'est une autre donnée intéressante aussi qui leur donne du poids, c'est qu'il y aurait aussi une tendance à la diminution de 43 % du nombre de piétons au centre-ville de Toronto. Cette diminution-là avait évidemment un impact sur les commerces de proximité et les restaurants. Puis même si de plus en plus d'employeurs demandent le retour au bureau, ça inclut les les banques et le gouvernement de l'Ontario. Il y a la professeure de l'Université de Toronto, Karen Chappell, qui, elle, ne croit pas que le nombre de travailleurs moyens va continuer d'augmenter au centre-ville, que ça va encore rester relativement stable. Elle évoque certaines compagnies qui ont adopté vraiment le travail hybride, le fait que c'est très avantageux pour certains types de travailleurs, puis que ça reste un avantage pour d'autres. Donc, ça se peut que ça n'augmente pas beaucoup plus.
Par ailleurs, Julien, les municipalités du nord de l'Ontario demandent de l'aide pour protéger le secteur forestier.
L'Association des municipalités du nord de l'Ontario et l'Association municipale du nord-ouest de l'Ontario demandent une aide au gouvernement fédéral pour sauvegarder le secteur de la foresterie dans cette région-là. C'est que le 10 septembre, l'usine de pâte et papier de Kapuskasing a reçu une extension de prêt du gouvernement provincial pour éviter sa fermeture. Puis on dit que si elle ne reçoit pas plus d'aide, elle pourrait fermer d'ici 2 semaines. Les deux associations rappellent que l'usine reçoit des copeaux de bois et de l'écorce des scieries de la région, entre autres de Hearst, de Cochrane et de Chapleau, qui sont des villes du nord de l'Ontario. Puis que si ces scieries-là ne peuvent plus écouler ces résidus-là, qui leur donnent un certain revenu, donc on perd une source de revenus, ça baisse la rentabilité, puis ça pourrait carrément entraîner la fermeture de ces scieries-là. Les deux associations soutiennent que si ces scieries ferment, le gouvernement pourrait avoir de la difficulté à remplir sa promesse de construire plus de logements plus rapidement avec du bois canadien. Puis la région de Kapuskasing pourrait perdre, ou au moins ça pourrait affecter, la fermeture de l'usine de pâte et papier pourrait affecter jusqu'à 2500 emplois dans la municipalité. On n'a plus beaucoup de nouvelles, mais initialement, le gouvernement fédéral semblait ouvert à donner un coup de main à l'usine.
Dans la source, ces planteurs qui parlent la langue de Molière en reboisant la Colombie-Britannique, c'est presque une phrase poétique.
Oui, presque, pour la langue de Molière. La source de Vancouver nous parle de ce texte intéressant-là de planteurs d'arbres francophones. Il y a plusieurs Québécois là-dedans, mais pas seulement, qui travaillent en Colombie-Britannique, puis ils racontent comment plusieurs francophones se retrouvent et forment des petits groupes, surtout quand ils sont isolés dans la forêt pour faire leur travail. Puis ils peuvent ainsi parler leur langue. Parfois, sont aidés par un chef d'équipe francophone aussi. Fait que ces petits groupes-là réussissent à se retrouver et à travailler en français, finalement, dans une mer anglophone et dans une mer de forêt aussi. Mais on parle aussi un peu dans le texte qu'au-delà de la langue, ben, ça leur permet, ils apprécient la liberté de cet emploi-là et ce qu'ils peuvent apprendre de la nature et des enjeux écologiques, surtout liés au domaine de la foresterie.
Une mère de forêt, vous aussi, vous êtes poète. Et en terminant, Julien, une journée en vert et blanc. En vert et en blanc.
Oui, parce que je vous rappelle tout simplement que demain, c'est la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Elle est un peu plus spéciale cette année parce que le drapeau franco-ontarien, cet emblème très apprécié de ces gens-là, va avoir 50 ans. Donc, il va y avoir plusieurs célébrations partout en province, là, mais la plus importante, évidemment, ça va être où je suis à Sudbury, parce que le drapeau est né et a été levé la première fois à l'Université de Sudbury en 1975.
Alors, on diffusera certainement la chanson « Mon beau drapeau », où on entend les voix de Véronique Duquerre et de Robert Paquette. Je ne vous dis pas quand, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Merci beaucoup, Julien.
Merci, bonne journée.